France Musique.
Bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur France Musique. Il est 22h et vous écoutez le Carrefour de la Création. Ce soir, nous allons parler d'opéra. L'opéra qui est sans doute le genre musical qui suscite le plus de passion. Et quand on est mordu d'opéra, et qui plus est de musique d'aujourd'hui, difficile de ne pas faire ce constat un petit peu amer. Les opéras contemporains ne sont pas légion dans les programmations des grandes salles et des grands festivals. Sans compter qu'à part quelques exceptions, peu d'opéras sont repris après leur création, ce qui les cantonne hélas souvent à des soirées de première. Pourtant, si elle a été conspuée, voire reniée par les compositeurs après la Seconde Guerre mondiale, qui voyait là une forme bourgeoise et élitiste, voire carrément réactionnaire, la grande forme lyrique fait un retour fracassant depuis une vingtaine d'années dans le cœur des compositeurs et des compositrices. Pourquoi continuer à écrire des opéras en 2019? Comment les écrire et comment trouver son public? Pour en discuter avec moi ce soir, j'ai le plaisir de recevoir quatre invités de choix, les compositeurs Francesco Filidei, Philippe Hersant et Yann Robin. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Et la compositrice Suzanne Giraud. Bonsoir Suzanne.
Bonsoir.
Ce soir, nous allons discuter bien sûr, mais nous allons aussi écouter beaucoup d'opéras. Et pour se mettre dans le bain juste avant de plonger dans notre débat, voici un extrait d'une œuvre qui marque, on peut le dire, une rupture dans l'histoire de l'opéra et que vous reconnaîtrez peut-être.
Pourquoi pleures-tu ? N'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. Pourquoi pleurez-vous ici, toute seule?
Ne me touchez pas, ne me touchez pas.
N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas. Oh, vous êtes belle.
Ne me touchez pas, ne me touchez pas, ou je me jette à l'eau.
Je ne vous touche pas, voyez, je resterai ici contre l'arbre, n'ayez pas peur. Quelqu'un vous a-t-il fait du mal?
Oui, oui, oui.
Qui est-ce qui vous a fait du mal?
Tous, tous.
Quel mal vous a-t-on fait?
Je ne peux pas le dire.
Pour introduire notre discussion sur l'opéra contemporain qu'un extrait du premier acte de Péléas et Mélisande de Debussy. Pourquoi pleures-tu? Demande Golo à Mélisande qu'il rencontre seul dans la forêt. 1902, c'est la date de la création de cet opéra avant-gardiste qui a suscité moult conversations fiévreuses et même des rires dans la salle de l'opéra comique le soir de la première. Francesco Filidei, vous êtes vous aussi à l'affiche de l'opéra comique, non pas en 1902 mais le 27 septembre, il y a deux jours, pour la première de L'Inondation, opéra en deux actes. La première d'un opéra, est-ce que ça a une saveur particulière? Est-ce que c'est comme la première d'une sonate ou d'un quatuor?
Je dirais que c'est quelque chose de bien différent et spécial. Avoir à disposition autant de moyens pour créer quelque chose et une expérience unique dans sa vie. Bon, moi, je suis déjà à ma deuxième opéra. Et là, déjà, je sais pas, il y a des compositeurs qui m'ont écrit à mon âge bien plus, mais pour moi, voilà, c'est toujours un grand effort. Là, c'est 3 ans de travail, quand même. Et être dans un contexte comme celui de l'opéra comique est unique, si on veut.
Alors en France, cette saison, 12 opéras contemporains sont programmés dans 34 salles qui programment de l'opéra. Et sur ces 12 productions, certaines tournent dans plusieurs salles tout au long de l'année. C'est le cas de votre nouvel opéra, Francesco Filidei. Puis je n'ai pas compté, c'est vrai, les opéras contemporains pour enfants qui sont plus courts. Sur ces 12 productions, on a 4 créations. La vôtre, Francesco, Until the Lions de Thierry Pécou, Macbeth Underworld de Pascal Dussapin, Chirine de Thierry Esquech. Une première réaction autour de la table à ces chiffres, Philippe Hersan.
Je suis étonné de ces chiffres qui sont bien meilleurs qu'ils ne l'ont été il y a quelques années. Oui. Moi, j'ai longtemps été à la SACD, au conseil d'administration de la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Donc, le répertoire de l'opéra appartient à la SACD. Et il y avait des années vraiment creuses. Je trouve ça même assez inquiétant, où il n'y avait pas de grand opéra créé sur les scènes françaises.
Zéro parfois.
Simplement des opéras comme pour enfants, comme vous dites. Donc, c'est un chiffre, par rapport à ce qui se faisait il y a un siècle, où tout était inversé, parce qu'à l'Opéra de Paris, il y a exactement un siècle, il y avait 11 opéras contemporains ou créations, et puis un opéra du répertoire. Là, évidemment, c'est exactement le contraire.
Yann Robin, pour une réaction à ces chiffres ?
Oui, alors 12 opéras, moi ça me semble toujours trop peu naturellement. La création, à mon sens, il devrait y avoir beaucoup plus de place. Et j'allais reprendre ce que tu étais en train de dire, Philippe. Effectivement, il y a un siècle et plus encore que ça, il n'y avait que des créations d'opéras. Et sans revenir à ça, trouver un équilibre entre ce qui fait le répertoire de l'opéra et la création, en toute sa vivacité, je trouve que ça serait un bon objectif dans le futur.
Suzanne Giraud, je me tourne vers vous. Aucune compositrice parmi ces noms, est-ce que ça vous étonne ?
Ça ne m'étonne pas tellement, non. C'est malheureusement trop souvent le cas et je crois que maintenant il faut absolument prendre le pli. Il y a eu un ouvrage qui a été publié par le CDMC récemment. Qui
le montre Centre de documentation de la musique contemporaine.
De la musique contemporaine. Et je crois qu'à partir de là, aussi bien les orchestres, puisque je crois qu'il en est question aussi dans les saisons des orchestres symphoniques, que pour ce qui est des opéras, maintenant il faut prendre de nouvelles habitudes.
Un réel effort à faire donc. J'évoquais le désamour des compositeurs pour l'opéra au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Vous confirmez tous les quatre qu'il y a bel et bien eu un nouvel élan au XXIe siècle, qu'on compose vraiment de nouveau des opéras.
Après, ça vient d'un désir d'abord. Après, je ne sais pas s'il y a un phénomène global qui se passe, mais en tout cas, c'est vrai que pour ma part, j'ai beaucoup plus attentif à ce qui se passe au niveau de la création. Et effectivement, je vois de plus en plus naître des opéras, et notamment des opéras autour de moi de la part de compositeurs qui viennent de ma génération. Donc peut-être qu'il y a-t-il un engouement, le fait de voir les uns et les autres se lancer dans l'aventure, peut-être. Après, je n'ai pas la réponse.
Merci Yann Robin. Francesco Filidei, est-ce que cette renaissance, on peut l'appeler comme ça, de l'opéra ces dernières décennies, serait due peut-être au renouveau de la mise en scène, vous qui avez travaillé avec Joël Pommerat à l'opéra comique?
Par rapport à la mise en scène, c'est quelque chose d'important, de fondamental. Ce que je peux dire, c'est que le rapport s'est un peu inversé aujourd'hui, et c'est celui de metteur en scène normalement. Tandis qu'il y a une époque, c'était les compositeurs qui prenaient la place. Disons. Là, vraiment, c'était le point de repère quand on faisait une opéra. Maintenant, disons que la position des metteurs en scène, elle est mise en évidence toujours, disons, ouais, parce que c'est des noms qui sont connus, plus qui est des compositeurs vivants. Et ça, c'est à mon avis aussi donné du fait que c'est une société aujourd'hui qui prend notamment de l'aspect visuel et moins de l'image que pour les sons.
Philippe Hersan, vous acquiescez ?
Oui, tout à fait. Puis je reviens un petit peu sur ce que vous disiez à l'instant. Moi, j'ai commencé à composer en 68, donc ça fait 50 ans maintenant. Et à une époque où on disait que l'opéra était mort, mais enfin, beaucoup de choses étaient mortes. L'orchestre était mort, le roman était mort, l'art était mort. Et des gens écrivaient des opéras en les appelant autrement pour montrer que l'opéra était mort. Et en fait, je constate quand même que tous les grands compositeurs de ces 100 dernières années ont écrit un opéra ou rêvé d'en écrire un, peut-être pas du Tilleux, je ne pense pas.
Non, effectivement.
Mais c'est un des rares cas, finalement, parce que même Boulez a projeté d'écrire un opéra. Donc je ne pense pas que ce genre était mort. Enfin, il a connu une période difficile, disons, où effectivement il a été accusé un peu de tous les maux, notamment d'être bourgeois et élitiste. Mais je crois qu'il a quand même continué tout du long à fasciner. Et il y a une profusion d'opéras extraordinaires au XXe siècle et au XXIe.
Et est-ce qu'écrire un opéra, ça représente aujourd'hui un passage obligé, ou en tout cas un tournant dans une carrière de compositeur, Suzanne Giraud.
C'est certain que ça n'est pas du tout le même type d'œuvre et on n'a pas le même vécu en écrivant un opéra. C'est beaucoup plus long à écrire, d'autre part, mais à l'aboutissement final, on est avec une équipe beaucoup plus importante. Et puis, en composant, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui se passe sur scène. Et ça fait vraiment une énorme différence. Aussi bien sur le plan de l'imaginaire que sur le plan des contraintes de faisabilité.
Francesco Filidei, combien de temps est-ce que vous avez mis pour composer l'inondation ?
C'est toujours difficile de dire combien de temps parce qu'on en passe des périodes différentes dans l'écriture, mais c'est vrai que le projet est né il y a 3 ans. Et disons que plus ou moins ça continue jusqu'à même maintenant, après la création pour la révision, la correction et tout.
Vous êtes sur France Musique dans le carrefour de la création. C'était un extrait de L'Inondation, le tout nouvel opéra de Francesco Filidei, qui est à l'affiche de l'Opéra Comique à Paris jusqu'au 3 octobre avec dans la fosse l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Francesco Filidei qui est avec nous autour de la table ce soir pour notre débat sur l'opéra contemporain. Comment et pourquoi écrire un opéra aujourd'hui? À nos côtés également et jusqu'à 23h, les compositeurs Philippe Hersant, Yann Robin et la compositrice Suzanne Giraud. Et nous évoquions à l'instant la véritable renaissance de l'opéra aujourd'hui. aujourd'hui. Mais pour autant, je vous pose la question à tous les quatre, est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de composer un opéra? Pas en termes d'inspiration, nous y reviendrons plus tard, mais plutôt pour commencer en termes de moyens, parce que j'imagine que la commande, c'est un petit peu la condition pour se lancer dans un tel chantier.
Le meilleur point de départ que je connaisse à l'heure actuelle, c'est un directeur d'opéra qui vous passe une commande. À ce moment-là, les choses sont relativement faciles.
Et simples, oui.
Oui, mais il y a assez peu d'opportunités. Enfin, je vois
Francesco,
que Francesco a besoin de nuancer
parfois,
ce que je dis.
Ça peut arriver tous, c'est ça le mystère de l'opéra. Même avec un contrat dans ses mains, c'est arrivé aussi de ne pas voir l'opéra jouer pour des questions qui peuvent être complètement aléatoires. C'est vraiment quelque chose qui arrive assez souvent et très inquiétant.
Et de fait, oui. Ça m'est arrivé pour mon premier opéra. C'était un Édipe, c'était en 1995. Ouais. Il y a d'autres façons de procéder, qui est de monter une production et de tout faire financer par la production. Alors là, c'est beaucoup plus difficile.
C'est-à-dire de tout faire financer par la production?
Eh bien, il y a un producteur qui part à la recherche de l'argent. Et là, c'est beaucoup plus aléatoire.
Bien sûr. Oui. Philippe Hersan, est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de composer un opéra?
Oui, oui, vraiment oui. C'est très difficile parce que déjà c'est un investissement absolument énorme.
Bien sûr.
Ça prend des années de travail. C'est compliqué d'avoir une commande, c'est compliqué d'écrire l'opéra qu'on a envie d'écrire. Et il y a quelque chose qui se passe actuellement qui est que très souvent maintenant ce sont les directeurs d'opéra qui demandent aux compositeurs. Ils arrivent avec un projet clé en main, un librettiste. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs puisque Olivier Mantegna vient de me commander un opéra sur un livret de Jean Ischnoz. J'adore Jean Ischnoz, donc j'étais tout à fait ravi de lui dire oui, mais c'était pas mon projet si vous voulez. Et ça je vois que c'est de plus en plus fréquent. On a une idée mais on va voir un directeur d'opéra qui veut dire oui mais ça rentre pas dans ma thématique ou ça ne rentre pas dans ce que j'ai envie de faire en ce moment. Par contre, est-ce que vous ne voulez pas faire tel autre opéra? Bon. Et ça, je crois que c'est un phénomène assez récent.
Yann Robin, vous confirmez?
Alors, pour ma part, je n'avais pas prévu d'aller vers l'opéra. Il y a une dizaine d'années, cette question-là s'est posée.
Comment vous êtes tombé dans le chaudron?
J'ai rencontré un écrivain quand j'étais à Rome, à la Villa Médicis, un pensionnaire, Yannick Hennel, avec lequel nous avons eu envie d'aller vers l'opéra. Donc on a nous cherché des sujets, on a systématiquement nous arrivons dans une impasse et finalement c'est lui au bout de quelques années qui a proposé d'écrire un sujet, de faire de créer une histoire, une dramaturgie. Et donc c'est cette chose-là en fait qui m'a donné envie d'y aller, c'est de faire le chemin avec une autre personne, un autre artiste.
Thank you.
Pascal Dussapin, compositeur prolixe dans le domaine de l'opéra. C'était un extrait de Passion, son sixième opéra créé à Bruxelles en 2008. Vous êtes sur France Musique et en bonne compagnie puisque je suis entourée des compositeurs Philippe Hersant, Francesco Filidei, Yann Robin et Suzanne Giraud et nous sommes en pleine discussion. Pourquoi et comment écrire un opéra aujourd'hui? On sait combien l'argent public se fait rare du côté des institutions culturelles et davantage encore pour la création. Cette dimension financière explique sans doute la frilosité des décisionnaires. Est-ce que l'opéra fait peur? Grande question, mais je vous la pose malgré tout. Suzanne Giraud.
Peur à qui? Au public?
Peur au public?
Au compositeur. Au public.
Peur aux institutions,
peur, oui, il y a l'opéra. Du public qui a peur de l'opéra et a régulièrement des enquêtes à vocation sociale là-dessus et qui montrent qu'il y a toute une frange de population qui ne se sent pas concernée. Et c'est bien dommage, puisque autrefois, il y avait des places de poulailler où venaient toutes sortes de corps de métier ou d'origine sociale. Et maintenant, ça a tendance à se perdre. Et effectivement, il y a quelque chose à reconquérir, je pense, de ce côté-là. Est-ce que l'opéra fait peur aux organisateurs? Oui, toujours.
Oui, c'est aussi, ouais.
Toujours. C'est vraiment ce qui fait le
l'opéra
plus peur.
L'opéra contemporain.
L'opéra contemporain, l'opéra en général. On pense toujours à la diva, tête d'affiche, qui va être malade au dernier moment. Eh oui, mais je vois que tout le monde connaît ça. En général, c'est vu comme une grosse machine que seuls les courageux peuvent accueillir et essayer de faire apprécier.
Nous évoquions le public à l'instant et parlons-en du public. Je pose un petit peu la question qui tue peut-être, mais qui écoute les opéras contemporains aujourd'hui? Est-ce que c'est un genre qui parle encore au public? Quel est votre avis là-dessus en tant que créateur, Yann Robin?
C'est très compliqué de toujours se poser la question du public, savoir pour qui on écrit, vers qui on écrit. Oui, en fonction des, j'imagine, des pays, des villes dans lesquelles on est, des opéras. Il y a un public, déjà des abonnés qui viennent, une masse qui sera curieuse de venir voir ce qui se passe. Mais après, il est vraiment difficile pour un créateur de se positionner par rapport à une audience qui va recevoir l'opéra. Les gens sont tellement différents les uns des autres que l'accueil qui sera fait est totalement aléatoire.
Francesco Filidei, la question du public quand vous composez un opéra, est-ce que vous la posez?
Le public que je cherche, c'est moi-même. C'est-à-dire, je me mets dans la position du public et j'essaie de faire ce que je voudrais entendre. Donc, dans ce sens, se pose autrement. Je peux dire que moi, il y a déjà 2 ans, j'étais invité à faire le conseiller musical dans un théâtre en Italie, Fondation de Reggio Emilia, les théâtres. Et là, je m'occupe aussi de la programmation des opéras. Et je vois que le public, effectivement, qu'on a, est très souvent assez âgé. Et d'échanger ce public et d'arriver vers un public plus jeune, c'est pas simple avec l'opéra.
Philippe Hersant, c'est la question.
Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Si j'écris un opéra ou toute autre œuvre, d'ailleurs, ça ne fait pas vraiment de différence. J'essaye de ne penser ni au public ni à la profession, parce que je ne pense pas qu'il faut essayer de plaire à l'un ou à l'autre, mais effectivement d'écrire pour soi du mieux qu'on peut, de faire le travail du mieux qu'on puisse le faire. Je me demande si le public n'est pas finalement moins dérouté devant un opéra contemporain que devant une œuvre de musique de chambre ou d'orchestre contemporaine. Peut-être parce qu'il y a les images, peut-être que j'ai l'impression que la musique passe plus facilement quand il y a un aspect visuel que quand c'est abstrait.
Alors créer un opéra, c'est une chose, c'est souvent même un temps fort dans la saison d'une salle ou d'un festival, mais le but c'est tout de même de le faire entrer au répertoire, cet opéra, en le faisant rejouer. Et ça, c'est encore plus difficile. Quel est votre avis là-dessus? Comment fait-on pour continuer à faire programmer un opéra? Yann Robin.
Oula. Après, tout dépend. Tout dépend quel format. Parce que si par exemple, le format pour lequel vous avez écrit rentre dans le cadre de maison d'opéra, peut-être qu'il y a une chance pour que la production puisse tourner. Mmh. Après, quand vous avez des opéras, on va dire plus de chambre, avec un dispositif instrumental qui ne rentre pas dans le format de l'opéra, ça va être plus compliqué peut-être à faire tourner, bien qu'il y ait moins de musiciens, mais peut-être que ça coûtera plus cher à la maison qui accueillera la chose, puisque ça sera des musiciens extérieurs qui viendront, par exemple. Bon, après, je pense pas qu'il y ait vraiment de secret. Après, ce qu'il faut, c'est peut-être trouver des coproducteurs dès le départ. Suzanne expliquait, monter une production, trouver l'argent, donc il y a plusieurs coproducteurs qui puissent s'engager pour le faire tourner, ce qui avait été le cas à Francesco avec Giordano Bruno, donc ton premier opéra. Il y avait eu plusieurs représentations. Pourquoi est-ce qu'au départ, tout avait été ficelé de la sorte à ce que l'opéra puisse avoir une vie après la création?
Ce qui est vraiment la grande question, que ça ne se limite pas à une soirée de première.
Oui, oui. Non, mais c'est absolument, il faut que tout soit prêt en amont. Mon premier opéra, le Château des Carpates, a pas mal, enfin pas mal, c'est pas énorme, mais il a dû y avoir presque une vingtaine de représentations, ce qui est bon. Le deuxième n'a jamais été redonné, il a été créé à Leipzig et il n'a pas été repris ensuite, parce qu'il n'y avait eu aucune coproduction
en amont.
En amont. Voilà. Donc c'était en 2006, et puis depuis j'ai essayé de le faire jouer en France. Et donc il n'a jamais été créé en langue originale, il a été créé en allemand, donc je l'ai créé en français. Donc je sais que maintenant il faut vraiment prévoir ça bien en avance.
Vous êtes sur France Musique et c'était le début du deuxième acte de La Maison des Morts du Tchèque Leo Janáček, un opéra de 1928, année de la mort du compositeur. Philippe Hersin, c'est un opéra que vous aimez beaucoup, je crois.
Oui, c'est un opéra qui m'émeut énormément et qui m'a un peu servi de modèle lorsque j'ai écrit ce que j'ai appelé un opéra choral, et qui est plutôt une cantate sur des textes de prisonniers.
On en écoutera un petit Tristia, extrait tout à l'heure, oui, justement.
Que j'aurais pu appeler Canti di prigione, mais c'était déjà pris par Dalla Piccola. C'est vrai que mon modèle était un peu de La Maison des Morts, que je trouve un opéra extraordinaire, d'autant qu'il est basé sur un livret qui n'est pas du tout fait pour l'opéra. Le livre de Dostoïevski est un reportage, en fait. Et de cela, Janáček a réussi à faire un atout, du fait qu'en fait, il n'y ait pas vraiment de narration. Et je ne sais pas comment il est fabriqué, cet opéra. C'est, même musicalement, c'est des bribes. Je ne sais pas comment ça tient debout, mais ça tient magnifiquement debout et c'est extrêmement émouvant.
Un très bel opéra, effectivement. On peut faire peut-être un petit tour de table avec mes trois autres invités. Si vous aviez un opéra à recommander aux auditeurs de ce soir, une idée de Yann Robin?
Il y en a beaucoup. Alors après, d'une manière très, très personnelle, moi, un opéra qui m'a beaucoup aidé, puisqu'il est en langue française à composer mon premier opéra, c'est Pélas et Mélisande, que vous avez proposé au départ, naturellement, par rapport au travail qu'a fait Debussy sur la voix, avec cette espèce d'antilyrisme, c'est-à-dire qu'il applique un même procédé vocal à tous ses chanteurs, sous la forme du récitatif, en quelque sorte, et le lyrisme, il le retrouve avec l'orchestre derrière. Donc je trouve ce procédé, en tout cas compositionnel, assez nouveau et très inspirant.
Et vous, Francesco Filidei?
Butterfly.
Madame Butterfly.
Oui, Madame Butterfly.
On retourne au 19e siècle. Suzanne Giraud?
Moi, je pensais à Wozzeck, qui m'a vraiment beaucoup porté. Et puis, un peu plus loin, Les soldats de Zimmermann. Et puis, toujours dans cette lignée, Lenz de Wolfgang Grimm. Voilà, ce sont des œuvres extrêmement fortes pour moi. Je ne sais pas si elles passeraient bien en France, mais... Enfin, je crois que Wozzeck est quand même donné de temps à autre, mais il a fallu attendre sa création très tardive à l'Opéra de Strasbourg et à Paris, c'était vraiment...
Les années 60.
Oui. Mmh. Oui.
Alors, on retourne en 2019 avec l'inondation. Francesco Filidei, vous avez beaucoup travaillé sur le plateau avec les chanteurs et main dans la main avec Joël Pommerat, le metteur en scène. Et notre journaliste Thomas Fergrache s'est immiscé à l'Opéra Comique pendant les répétitions et en est ressorti avec un petit reportage. Il nous emmène avec lui.
Et on va se glisser dans la salle pour aller suivre une des répétitions de l'inondation. La nouvelle création de Francesco Filidei et de Joël Pommerat.
On va brancher ça à la fin.
Bonjour Joël Pommerat.
Bonjour.
Alors comment ça vous est venu cette idée de travailler autour de cette nouvelle inondation ?
C'est suite à cette rencontre avec Francesco, cette nécessité de trouver un objet, un livret pour construire notre projet, quoi. Une fois évacué l'idée de faire un livret original, c'est-à-dire une pure création, l'idée a été de trouver un support littéraire qui soit vraiment captivant pour nous deux. Et je suis allé au plus simple de mon côté, c'est-à-dire je suis allé vers cette nouvelle que je traîne avec moi depuis 25 ans peut-être, comme ça, comme un petit modèle de créativité ou de création pour moi. Une chose qui sans doute m'a bien travaillé, voire influencé. Je me rends compte en regardant les répétitions encore aujourd'hui qu'il y a même des choses que j'ai recrachées entre guillemets dans certains de mes spectacles qui proviennent de cette histoire-là, de cette nouvelle-là.
Comment on fait concrètement pour écrire un livret à partir d'une source qui est déjà existante ?
On adapte, on recrée, et surtout là, dans ce cas-là, on massacre. En fait, on fait beaucoup de mal à l'œuvre, quoi. Parce que moi, j'ai tellement de respect pour cette œuvre, j'ai tellement de fascination et de que là, évidemment, en y réfléchissant quelques semaines, je me suis rendu compte que les solutions pour rendre ça opératique, c'était des solutions relativement destructrices dans un premier temps de la cohérence de l'œuvre littéraire, quoi. Voilà, il fallait accepter le sacrifice de l'œuvre littéraire pour aller vers quelque chose qui on pourrait dire une adaptation dans un autre mode d'expression.
Il faudrait que vous soyez à la table. Donc je pense qu'il faut commencer le fait d'appeler les enfants plus tôt. Je pense qu'il faut que quand
si je dis que voilà, j'ai trouvé une théâtralité, ça va vraiment faire le garçon qui aime pas la musique et qui veut absolument trouver quelque chose qui va pas trop être musical et qui va pouvoir rentrer dans son cadre à lui. Je sais pas, je l'ai découvert à partir de l'opéra Giordano Bruno. C'est vrai que j'ai vraiment flashé, quoi. D'abord en écoutant, avant de voir l'opéra lui-même. Je pense qu'il y avait quelque chose, des accents que moi je qualifierais de shakespearien, quelque chose qui a du poids de la chair, ça me dérangerait pas, et je pense que j'aime aussi ce genre de musique. C'est extrêmement intellectuel, ou qu'on pourrait qualifier de froide. Là, c'est une musique qui est extrêmement charnelle, quoi.
La partition de l'inondation, c'est tout à fait particulière.
Emilio Pomarico, chef d'orchestre.
Parce que Francesco, il utilise son langage et son vocabulaire, je dirais plus précisément. Mais cette fois, il est bien conscient d'affronter la forme musicale du mélodrame. Il veut le faire vraiment cohérentement. Et il y a une dualité très marquée dans cette partition, c'est-à-dire le fait qu'il invente le chant plutôt sur des racines de tradition. Les bel canto italien, il est là, presque partout dans l'opéra, mais cet bel canto, il est suspendu dans cette nuage d'instrumentation très raffinée, très spécifique à lui. Et je pense que dans sa production, c'est une nouveauté, parce que Il veut bien reprendre les racines du mélodrame historique, comme les connaît du XIXe siècle, et essayer cette projection dans notre temps, mais en même temps, il veut donner la possibilité à un public qui n'est pas le public de la musique contemporaine de participer, de comprendre surtout. Je pense qu'il a gagné le pari.
C'était un reportage de Thomas Fergrash qui était à l'Opéra Comique il y a quelques jours pendant les dernières répétitions avant la première de l'Inondation. La première, c'était le 27 septembre. Francesco Filidei, en écoutant les propos notamment de Joël Pommerat, une réaction peut-être ?
Oui, c'est-à-dire, je voulais parler un moment de l'idée qui était à la base du langage de cet opéra, qui est une véritable opéra, c'est-à-dire un mélodrame. Alors, quand Philippe a dit qu'il y a cette renaissance, que l'opéra, à un certain moment, était mort, c'est vrai qu'il y a cette renaissance, mais à mon avis, on va jamais avoir ce qui a été l'opéra fin 1800, par exemple, depuis 1900, vraiment, là où on n'avait pas encore des films, là où c'était vraiment quelque chose de très important pour la société, en tout cas en Italie, c'était vraiment l'instrument. Donc, mon opération, c'était un peu de travailler comme les cadavres de l'opéra. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette espèce de fantôme de l'opéra, et dans un cadre qui est celui de l'opéra comique, qui est, on peut plus imaginer un temple pareil, disons, pour créer ce genre d'opération. Donc, on entre dans ce cadre-là, et alors, les calques de l'opéra aussi fait partie de cette atmosphère, et après, j'ai essayé de les briser par l'intérieur. Donc, cet opéra, si je l'avais fait dans une usine, aurait eu un aspect complètement différent.
Alors, l'opéra pose la question de la durée, du temps long. Un opéra, globalement, c'est long. Et or, on a le sentiment, quand on regarde les œuvres musicales composées aujourd'hui, qu'on serait davantage sur du temps court, hein, des opéras parfois d'une petite heure, des mélodrames musicaux, beaucoup d'opéras contemporains pour les enfants. Alors, les raisons sont-elles avant tout économiques ou plutôt à chercher du côté du public sur cette forme plus courte de l'opéra aujourd'hui, Yann Robin ?
Déjà, la durée de l'opéra est dépendante du livret aussi, et de ce qu'on fait du livret. C'est vrai qu'avec les commanditaires, il peut y avoir, selon les pièces que l'on a à écrire, à composer, une durée qui est déterminée au départ, mais après le compositeur, des fois, s'empare de livrer de ce qu'il a à faire et finalement, étend la durée ou la compresse. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment des formats plus courts ou plus longs, tout dépend en fait du choix du sujet et de comment on traite le sujet.
Philippe Arsan.
Oui, non, je suis d'accord avec ça. Vous avez aussi quelques opéras qui sont quand même très longs, comme Saint-François de Messiaen, qui a une ampleur presque wagnérienne, ou La Ronde de Boussemans, qui est quand même un opéra assez long. Peut-être, d'une manière générale, le format s'est un petit peu rétréci, mais tout dépend effectivement du livret. J'ai écrit des opéras courts. Le premier opéra que j'ai écrit, c'était un opéra de chambre, parce que le livret tenait sur une page. Et puis, l'opéra que je dois écrire sur le livret des Chenots sera certainement beaucoup plus long, presque 2 heures, je pense.
Je pense aussi que ça dépend du projet de départ et puis du cadre dans lequel on s'inscrit. Parce que sur les 7 ou 8 œuvres opératiques que j'ai écrites, il y a un opéra pour enfants où il fallait effectivement pas déployer trop de difficultés, y compris dans la durée, pour que les enfants puissent l'interpréter. Donc c'était plutôt dans les 30 minutes. Il y avait le projet de départ qui était d'écrire un opéra de poche. Là, c'était carrément, ça allait chercher dans les 15 à 18 minutes. Et puis, il y a les grandes fresques, telles que mon Caravaggio, qui fait 2h30, ou le vase de parfum, qui fait 1h30 à lui.
Et justement, le Caravaggio, on va en écouter un extrait du deuxième acte. Donc, le Caravaggio en opéra de Suzanne Giraud, créé à Metz en 2012, opéra en 4 actes. Et comme le titre l'indique, il retrace la vie du Caravage dans l'Italie de la Renaissance.
Thank you. miserella. Non faire mal.
Quelle pitié.
Un extrait du Caravaggio de Suzanne Giraud. Alors, ça nous amène à une question cruciale, le choix du sujet. On l'a évoqué tout à l'heure en parlant des commandes. Comment est-ce qu'on choisit un sujet d'opéra aujourd'hui, Philippe Hersant, vous nous disiez que c'était de plus en plus clé en main, que c'était les directions d'opéra.
Oui, c'est effectivement un peu ce que je disais tout à l'heure. Ça se vérifie de plus en plus, je trouve. Surtout que beaucoup d'opéras ont des saisons thématiques. Désormais, donc il faut que le sujet rentre dans la thématique de la saison. Bon, jusqu'ici j'avais eu de la chance parce que les deux opéras que j'ai écrits, Le Moine Noir et Le Château des Carpates, sont des sujets que j'avais choisis et qui ont été acceptés par les directeurs d'opéra, Montpellier et Leipzig. Et puis bon, celui que j'écris, c'est un livret de Jean Richenoz, mais j'avoue que j'y avais pas pensé, mais voilà, j'aime beaucoup ce livret, donc j'accepte cette contrainte avec plaisir.
Francesco Filidei, sur le choix du sujet, un mot peut-être?
Oui, c'est toujours assez complexe et très souvent aujourd'hui on demande des sujets, par exemple engagés, des choses liées à l'actualité. Pas forcément un compositeur désire se confronter à ça dans un théâtre d'opéra où parfois ça peut sembler même bizarre de parler des immigrés, des gens qui meurent dans la, avec autant de moyens.
De sujets d'actualité.
D'actualité, oui, voilà, c'est ça. Donc, par exemple, dans les cas de l'inondation, on parle... d'une histoire du passé, mais quand même on peut avec les passés parler aussi du présent, mais c'est très très souvent difficile de réussir à avoir cette possibilité.
Yann Robin, pour Le Papillon Noir, votre opéra, comment est-ce que vous avez choisi le sujet?
Ce que je disais, c'est que le sujet est né en fait de la rencontre faite avec Yannick Enel et de l'impossibilité de trouver un sujet que nous voulions adapter à l'opéra. On a exploré beaucoup, beaucoup de livres. Et finalement, c'est Yannick, qui était un écrivain remarquable, qui a lui-même inventé un sujet. On a fait des séances de travail pour pouvoir...
Du sur-mesure.
Du sur-mesure. Et justement, ce que je lui ai demandé, c'est surtout de me faire un livret d'opéra qui n'est pas un livret d'opéra, dans le sens avec des phrases courtes. Et finalement, il a décidé de faire un long monologue. Il fait une vingtaine de pages et l'opéra dure une heure et demie, à peu près. Et donc, c'était un texte fleuve qui m'a amené, voilà, finalement, sur la scène de l'opéra.
M'entends. Cette fois j'y suis. Plus rien dans ma tête. Nulle part. Geste vide. Cette fois j'y suis. Plus rien. Geste vide. Pourquoi chercher encore? J'y suis chez moi. Cette fois j'y suis. Je croyais que c'était loin, après les ombres. Un pays, après les ombres. Mais non, j'y suis. Plus rien. Pas besoin d'ouvrir. C'est comme l'amour. Le cœur parle, en fait. C'est fait. Cette fois, j'y suis. Je continue. Qu'est-ce que ça fait? Morte. Je suis... vie, vente,
J'y suis. C'est là.
La toute fin du Papillon Noir, opéra de Yann Robin, composé en 2018 sur la question du choix du sujet d'un opéra. Suzanne Giraud, vous vouliez réagir?
Oui, parce que moi, les deux sujets principaux de mes deux plus grands opéras, le Vase de Parfum, que j'ai coécrit avec Olivier Py, et le Caravaggio avec Dominique Fernandez, ce sont des sujets que j'ai vraiment choisis au départ. Et même pour le Vase de Parfum, je l'avais défini au départ. Mais ce qui est très important, c'est de faire la bonne rencontre avec le bon écrivain. Et je dois dire que pour le Vase de Parfum, j'ai cherché très très longtemps avant d'aboutir à Olivier Py, qui était vraiment
la
personne idéale pour mon sujet. Caravaggio, en revanche, j'avais lu le livre « La course à l'abîme » de Dominique Fernandez, et tout en ayant porté auparavant le sujet, le thème du Caravage, je pensais que c'était vraiment cet écrivain-là qu'il fallait. Mais je suis en train de vivre actuellement une autre configuration. C'est un écrivain qui m'a choisi, c'est Pascal Quignard, pour un conte musical qui va être créé ici à la Maison de Radio France le 19 octobre avec Pascal Quignard en récitant, trois chanteuses qui sont Maya Villanueva, Elodie Fonard et Pauline Sikirji, et la maîtrise et l'orchestre philharmonique de Radio France. Et là, j'ai eu l'heureuse surprise un jour qu'une éditrice vienne me chercher pour me dire « Pascal Quignard voudrait absolument que ce soit vous qui fassiez la musique de ce conte musical ». Donc je crois que c'est la cooptation, l'adéquation entre librettiste et compositeur qui fera toujours les opéras les plus forts. Maintenant, comme disait Philippe, parfois il y a des directeurs de maisons d'opéra qui pensent pour nous que tel auteur, tel
qui
écrivain...
Qui impose un librettiste, du coup, c'est
qui impose, mais parfois ils ont bien réfléchi à la chose, ils ont bien analysé finement les personnalités pour les assembler, dans le meilleur des cas.
Sure.
Vous êtes sur France Musique, bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans le carrefour de la création consacrée ce soir à l'opéra contemporain. On vient d'entendre un extrait de Tristia de Philippe Hersant qui est avec nous. Et la question de l'écriture vocale, de l'écriture pour la voix, c'est une question qui vous habite, Yann Robin ?
Moi, c'est la question qui m'a habité dès le départ et qui m'a empêché pendant plusieurs années de venir à l'opéra. C'est-à-dire surtout, surtout un opéra en langue française. C'est-à-dire que la langue aussi va vous orienter dans une manière d'écrire ou pas. Moi, je voulais absolument faire un opéra en français, mais la question de la ligne était problématique avec mon propre univers sonore. J'avais pas trouvé comment rentrer là-dedans. Donc finalement, avec pas mal de réflexions, beaucoup de temps d'expérimentation, j'ai annihilé deux paramètres du chant par rapport à la parole, que sont les registres dans lesquels on évolue. J'ai essayé de retrouver un chant dans la parole en me rapprochant le plus du parler réel tel qu'on l'a maintenant, complètement inscrit dans une métrique et dans une partition. Et donc j'ai mis en place le concept de l'actrice chanteuse.
Je pense que c'est un sujet idéal pour moi parce que j'aime beaucoup la rhétorique, j'aime beaucoup les textes. D'avoir étudié un peu cette rhétorique et le poids qu'on peut mettre dans les syllabes, dans les vers, à tel endroit d'un texte ou d'une strophe, ça me captive beaucoup. Et donc de pouvoir retravailler les textes à cette aune-là, ça me passionne tout à fait.
On vient de parler de la langue dans laquelle on choisit d'écrire un opéra. Voici tout de suite, pour se quitter, un opéra, un extrait d'opéra sans parole, Atlas de Meredith Monk. La 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 la.
La 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 la
J'ai quand même envie de vous demander, pour terminer sur ces quelques notes de Meredith Monk, pourquoi est-ce que tous les quatre vous aimez composer des opéras ? Suzanne Giraud, je vous laisse commencer.
L'opéra, c'est la forme qu'on peut dire la plus proche de la vie et la plus proche de tout ce qu'on peut ressentir de plus profond. Et en même temps, on peut traverser la force de différents arts. On fait une synthèse extraordinaire entre la représentation scénique, tout ce qui peut nourrir le décor, tout ce qui peut nourrir une action, et puis une écriture sonore qu'on peut travailler à loisir en contrepoids ou en soutien de ce qui se passe dans le drame dont il est question.
Yann Robin, pourquoi est-ce que vous aimez composer des opéras ?
Le texte, se retrouver, retrouver sa musique, se retrouver au travers du texte et prendre le texte comme une ligne qui est, comme on écrirait un concerto, c'est-à-dire que la ligne devient l'instrument soliste en quelque sorte, et imaginer tout l'univers sonore autour de cette ligne-là qui a été proposée en tout cas par l'écrivain.
Francesco Filidei.
Mais par mes racines italiennes, c'est-à-dire nous, peut-être on n'a pas eu les grands romans 1800 qu'on a eu en France. On a eu Verdi, Puccini et tout ça, et on a oublié de l'étudier à l'école comme on a continué à faire avec des écrivains comme Alessandro Manzoni, qui sont pas mal, mais qui connaît en dehors des, disons, du milieu italien, certains écrivains qui ont étudié, je veux dire. Donc, je retrouve par ça mes racines.
Et Philippe Hersant, peut-être pour le mot de la
raisons,
fin.
J'arrive en dernier, mais c'est un peu pour toutes ces raisons. Comme Yann, j'adore la forme concerto, et j'ai l'impression souvent, même dans mes œuvres symphoniques ou mes œuvres de musique de chambre, et plus encore mes concertos, d'écrire des opéras sans parole, mais c'est un genre qui ne me quitte pas, même si je n'ai pas écrit tant que ça, finalement.
Et est-ce qu'il y a un pouvoir de l'opéra ?
Pour moi, il y en a un très fort. Il ne se passe pas un mois sans que je vois un opéra.
Oui, il n'y a rien de plus beau de voir écrire quelque chose, un bout de papier comme ça, et voir qu'il prend vie par un corps, qui chante, qui bouge, qui prend une forme qu'on n'avait pas pensé.
Le pouvoir de l'opéra est de nous transporter hors du monde dans lequel nous sommes, puisqu'on peut effectivement d'un seul coup se retrouver à une autre époque, sur un autre continent. Francesco parlait de Butterfly, par exemple, et on est pris, on oublie notre condition habituelle pour nous isoler dans un monde autre.
C'est vous qui aurez le mot de la fin, donc Suzanne Giraud, après cette heure de débat sur comment et pourquoi écrire un opéra aujourd'hui. Donc insistons encore, avant de nous quitter, sur ce pouvoir de l'opéra, ce pouvoir qui est de nous permettre, le temps de 2 heures de spectacle, de gagner des terres lointaines sur lesquelles nos quotidiens effrénés ne nous permettent pas toujours d'accoster. Je remercie mes invités de s'être prêtés au jeu de la discussion. Suzanne Giraud, les compositeurs Philippe Hersant, Francesco Filidei et Yann Robin. Merci à tous les quatre d'être venus discuter d'opéra avec nous. Un débat que vous pouvez retrouver en podcast sur francemusique.fr. Ce carrefour de la création était réalisé par Claire Lagarde avec aujourd'hui à la technique Olivier Dupré. J'ajoute un petit remerciement à Arnaud Merlin pour ses conseils avisés.
À réécouter sur francemusique.fr.